Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire.
En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur, en échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h,
sur Radio Libertaire 89.4 FM. Carapatage, contre toutes les cages. Bonsoir, vous êtes bien dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages jusqu'à 22h. Alors déjà, pour nous contacter par mail, c'est à carapatage@riseup.net ou pour nous écrire aussi au 4 Villa Stendhal 75 020 Paris. On a aussi un blog, carapatage.noblogs.org, où vous pourrez retrouver cette émission et les précédentes, et un compte Instagram qui s'appelle Carapatage. Et aussi, pour nous appeler en direct, c'est au 01 43 71 89 40. C'est Yentel qui vous parle. Avec moi ce soir, il y a Alix.
Salut.
Henri.
Hello.
Et à la technique, Maëlle.
Salut.
Ce soir, une émission, on va parler de la maternité en prison, avec quelques incursions dans d'autres espaces d'enfermement. Quelles sont les mères ou les futures mères qu'on incarcère ? Comment se déroule la grossesse et l'accouchement en prison? Dans quelles conditions vivaient les prisonnières avec un enfant en bas âge? Qu'est-ce que ça signifie de naître et passer les premiers mois ou les premières années de sa vie en prison? Ça implique quoi d'être mère quand on est enfermé loin de son ou de ses enfants? Est-ce qu'on est considéré comme un parent à part entière? Et quelle place est laissée aux prisonnières pour la libre disposition de leur corps et le respect de leur choix? Mais avant ça, quelques brèves d'actualité et on parle des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Ouais, alors les quartiers de lutte contre la criminalité organisée, donc les QLCO, c'est ce qui est aussi appelé dans certains médias les prisons narcotrafic. On en a déjà pas mal parlé à l'émission précédente, si jamais ça vous intéresse. Mais on voulait dire que du coup, il y avait eu depuis une quarantaine de détenus qui avaient été... il y avait eu l'ouverture du QLCO à Condé-sur-Sarthe, donc qui était annoncé, celui-là, depuis déjà un petit moment. Et il y a 40 détenus, du coup, qui ont été transférés là-bas, une quarantaine. Et il y a Darmanin qui a aussi annoncé le 12 octobre la création de nouveaux QLCO. Donc ça, on s'y attendait peut-être un petit peu moins. Du coup, qui vont être implantés à Réau, à Valence et à Aix-Luynes dans les prochains mois. Et dans la future tôle de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane pour fin 2026, début 2027. Donc à terme, ces quartiers supplémentaires, ça devrait permettre d'enfermer 500 à 700 personnes, donc dans des conditions particulièrement rudes, sur le modèle de ce qui se fait à Condé là depuis peu et à Vendin-le-Vieil depuis le mois de juillet, où en juillet il y a une centaine de places qui ont ouvertes au QLCO de Vendin. Juste pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission précédente, ces nouveaux quartiers, ils sont inspirés des dispositifs d'isolement destinés à la mafia en Italie. Et les détenus qui y sont envoyés, qui peuvent être prévenus ou condamnés, sont transférés dans ces quartiers par décision du ministère de la ministre de la Justice pour une durée d'un an qui est renouvelable un nombre illimité de fois. En théorie, est censé y être envoyé uniquement des prisonniers qui continuent de commettre des infractions depuis leur cellule. En pratique, c'est pas forcément respecté. Et parmi, à Vendin, il y a pas mal de prisonniers qui avaient fait des recours. Il y en a où il n'y a pas eu d'apport de signes qui pouvaient continuer à commettre des infractions, mais ça n'a pas pour autant fait aboutir leur recours. Les conditions de détention, elles y sont particulièrement dures, avec plusieurs épaisseurs de caille bottie qui empêchent la lumière naturelle d'atteindre les cellules, les détenus réveillés toutes les 2 heures, un isolement qui est renforcé à la fois avec les contacts avec l'extérieur qui sont extrêmement réduits, pas de possibilité d'accès aux UVF et aux parloirs familiaux, une limitation dans les appels téléphoniques, un dispositif de séparation au parloir avec les proches, dispositif de séparation au parloir avec l'avocat. Les transferts dans ces quartiers qui souvent peuvent provoquer un éloignement avec les proches aussi. Les contacts entre les prisonniers eux-mêmes de ce quartier sont également ultra limités. Les quelques retours qu'il y a de Vendin, c'est que depuis cet été à Vendin, il y a certains détenus qui sont interdits d'activités de groupe. Et pour ceux qui ne sont pas interdits de contact avec d'autres détenus, la promenade et l'accès au gymnase se fait par groupe de 5 personnes maximum, donc c'est très très peu. Il n'y a pas de bibliothèque ni d'activité. Il y a des cours qui doivent normalement être organisés à partir de mi-2026, mais on verra si ça a vraiment lieu ou pas. Du coup, voilà, c'est pas mal inquiétant parce que... c'est quand même vraiment de la torture pour les gens qui y sont envoyés. Et en plus, on voit avec ces annonces qu'il y a quand même le risque qu'il y en ait de plus en plus et qu'il y ait de plus en plus de personnes du coup, qui subissent ce régime de détention-là. Quoi.
Et ça se normalise complètement. Et on peut aussi dire que Darmanin, il y a 2 jours, il a annoncé que... Il réfléchissait à réouvrir la prison de Clairvaux, qui était une maison centrale très ancienne dans l'Aube. On en a un peu parlé dans l'émission sur les luttes des prisonniers dans les années 80 et 90. Et voilà, c'était une centrale très sécuritaire. Donc, pas étonnant de la part de Darmanin, mais on pensait qu'on en avait fini avec Clairvaux. Et en fait, non. Et du coup, pour faire le lien avec Condé-sur-Sarthe, on va donner des nouvelles d'un prisonnier dont on parle régulièrement, qui est Fabrice Bourromée. Il y a une campagne de solidarité qui est lancée pour faire connaître sa situation. Donc on va lire un texte écrit par ses proches. Fabrice est un prisonnier guadeloupéen enfermé depuis 2010 et déporté en métropole en 2011. Depuis, il réclame son transfert en Guadeloupe auprès de ses proches qui ne peuvent pas venir lui rendre visite aussi loin. Une double peine qu'il subit comme de nombreux autres prisonniers transférés des territoires colonisés. Fabrice a essayé de se faire entendre par tous les moyens. Ne recevant que mépris et répression en réponse, il est allé jusqu'à faire ce que l'administration pénitentiaire appelle des prises d'otages. Il a retenu dans sa cellule des membres du personnel pénitentiaire dans l'espoir d'être enfin entendu. Matons, administration et institutions judiciaires lui font payer ses actes de révolte par des représailles infinies. Il a été condamné une 20aine d'années supplémentaires à l'intérieur alors qu'il était entré pour une peine de 8 ans. Pendant de longues années, en quartier d'isolement, des lieux de destruction physique et psychique, il n'a été en contact qu'avec des surveillants casqués. Il a subi la violence d'escortes suréquipées, le menottage à chaque mouvement et les fouilles systématiques, les repas jetés par une trappe, l'impossibilité de voir un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans des conditions décentes. Ce traitement a eu de graves conséquences sur la santé de Fabrice. En 2017, il a reçu 2 grenades assourdissantes jetées par des surveillants dans sa douche. Ça l'a rendu sourd d'une oreille. Il a aussi souffert d'un grave ulcère à l'estomac provoqué par le stress. L'administration s'est cantonnée dans un refus de soins récurrent. Jusqu'en mars 2025, à la prison de Vendin-le-Vieil, Fabrice a subi des injures et des provocations racistes pendant des mois. Il en a fait part à la direction de l'établissement, à la direction interrégionale des services pénitentiaires Grand Nord-Lille et à la direction de l'administration pénitentiaire. La DAP et la DISP ont répondu, mais sans rien faire pour mettre un terme à ces agissements. Fabrice a tout de même obtenu un transfert à la maison centrale de Valence où il a été sorti d'isolement au mois de juin pour à peine quelques semaines et ce pour la première fois depuis plus de 13 ans. Mais comme il a porté plainte contre les surveillants qui l'ont rendu sourd, l'administration pénitentiaire a repris les hostilités aussitôt. Elle l'a transféré à la maison centrale sécuritaire de Condé-sur-Sarthe, son troisième transfert en un an. Il y est enfermé dans des conditions particulièrement dures, toujours au quartier d'isolement où des surveillants cagoulés et lourdement équipés le menottent et l'entravent à chaque sortie de cellule. Condé-sur-Sarthe est une des fameuses narco-prisons où sont mis en place les nouveaux QLCO, dont on vient de parler, une réhabilitation explicite des quartiers de haute sécurité du XXe siècle. Nous lançons une campagne de solidarité avec Fabrice pour faire connaître son combat, pour briser un peu l'isolement et pour dire stop à la fonction coloniale et raciste de la prison. Il est important de relayer cet appel, la sécurité de Fabrice en dépend. Et puis il y a une cagnotte, car en prison tout coûte cher. Les cantines, le frigo et surtout le téléphone pour la Guadeloupe. Et donc on mettra le lien de la cagnotte pour aider Fabrice sur le blog. Et maintenant on va parler de quelques révoltes dans des lieux d'enfermement, et d'abord au CRA de Vincennes.
Ouais, alors pour commencer, il y a eu une grève de la faim le 11 octobre au CRA 2B à Vincennes, qui a été relayée par le site Abat les CRA. On y apprend que les prisonniers doivent se battre pour accéder aux choses les plus élémentaires, et dans ce cas-là, c'était une grève de la faim éclair, car les policiers ne les laissaient plus accéder au coffre, l'endroit où se trouvent l'argent, les affaires et le téléphone quand quelqu'un est en détention. Le prisonnier qui raconte cette grève raconte aussi que c'est la seule manière d'être entendu en CRA et qu'il avait déjà dû le faire plus tôt pour obtenir des soins. Et je vais vous lire un extrait de ce qu'il dit. Moi, c'est pas la première fois que je faisais la grève. Je l'ai déjà fait en août pour mes droits. Je suis handicapée. J'ai eu un accident ici en France. Je peux pas marcher bien. J'ai des béquilles. Ici, c'est pas pour les handicapés. Je peux pas aller aux toilettes tout seul parce que c'est des toilettes à la turque. Je dois taper à la porte le matin pour que les flics m'emmènent à l'isolement où il y a des toilettes normales. Je peux pas me doucher seule et je dois demander à des gens de me ramener mon plateau dans la chambre. Normalement, je dois avoir des séances de kiné parce que je dois pouvoir remarcher normalement à un moment. Au CRA, il n'y a pas de kiné. Il n'y a pas non plus les médicaments que je dois avoir. Par exemple, de la crème cicatrisante. Ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. Moi, j'ai dit à l'infirmerie, s'il n'y a pas les moyens d'avoir un kiné, je veux un certificat médical qui dit qu'il n'y a pas les moyens d'avoir un kiné ici. Ils ne voulaient pas, alors j'ai fait la grève de la faim. J'ai fait ça un jour et ils m'ont fait le certificat. Donc moi, je sais que ça fonctionne comme ça ici, mais les autres, ils ne savent pas forcément. Moi, je me bats aussi, c'est pour les autres. C'est pas que pour moi, on a les droits, il faut qu'ils les respectent. Donc ça, c'était le 11 novembre au CRA de Vincennes, dont on avait déjà relayé il y a quelques mois plusieurs autres grèves de la faim et aussi mutineries. Et j'enchaîne sur une mutinerie à l'établissement pour mineurs de Kievrechain qui a eu lieu le 2 novembre. Mutinerie qui a donné lieu à l'intervention de l'équipe régionale de sécurité, donc les CRS de la prison, les ERIS, pour la première fois sont intervenus dans cette prison pour mineurs, donc pour personnes très jeunes, ce qui indique à quel point le niveau de violence vis-à-vis de ces prisonniers-là monte aussi. Visiblement, ce qui s'est passé, ce qui est relaté dans la presse, c'est que les surveillants ont intercepté un missile et que à partir de là, les prisonniers, les mineurs se sont révoltés et ont dégradé le réfectoire. Suite à ça, ça a donné lieu à donc l'intervention des ERIS et au fait que ces 7 mineurs ont été placés en garde à vue. Et c'est dans un contexte très tendu. Dans cette prison, dans cette EPM, où il y avait déjà eu 2 prises d'otages au printemps dernier et où les matons se plaignent dans les médias que les prisonniers, qu'on appelle les prisonniers et les détenus, mais qui sont encore une fois des personnes parfois très jeunes et des mineurs, seraient de plus en plus violents. On se demande pourquoi.
Oui, et que c'est le régime d'enfermement des mineurs et leurs condamnations qui deviennent de plus en plus lourdes et violentes. On passe à un petit point agenda. Demain soir, jeudi 6 novembre à 19h, il y a un meeting en solidarité avec la Kanaky. Ce sera à la Bourse du Travail, 23 boulevard du Temple à Paris, dans le 11e arrondissement. Ce sera en présence de prisonniers politiques kanaks qui ont été libérés récemment. Et il y aura notamment des témoignages et des informations sur la prison de Caen Est, qui est située en Kanaky, dont on a un peu parlé dans l'émission précédente en octobre. Et on a un autre rendez-vous à vous donner auquel on va participer à la fin de la semaine.
Oui, c'est vendredi, du coup le 7 novembre à partir de 19h30 à la Flèche d'Or, au 102 bis, rue de Bagnolet, dans le 20e. C'est l'événement Dykes and Friends, édition anticarcérale, où il va y avoir des concerts, des lectures, des stands, des snacks, de la musique, de la musique punk et des DJ sets. Du coup, il y aura une partie de l'équipe de Carapatage qui sera là pour mener une discussion autour de l'anticarcéralisme. Donc on vous y attend vendredi à partir de 19h30.
Voilà, et on va faire une première pause musicale. On écoute Non, tu n'as pas de nom de Anne Sylvestre.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas. Non, oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises, je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste, depuis si longtemps j'existe. Depuis si longtemps je t'aime, mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse, qui sont-ils ceux qui m'accusent? Non. Tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance, ceux qui croient que ça se pense. Ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Vous Vous êtes de retour dans l'émission Cœur à Patage sur Radio Libertaire 89.4. On va passer à notre thématique de ce soir qui est la maternité en prison. Et on va commencer par un petit historique de comment cette question des mères enfermées avec leurs enfants est apparue. Le seul rayon de soleil qui passa à travers les grilles du vieux Saint-Lazare éclairait une salle où des prisonnières, toutes jeunes, presque des enfants-mères, nourrissaient leurs petits. « Ce sont ces femmes-là, a dit un homme de beaucoup d'esprit et de cœur, que la société peut essayer de relever par le frisson maternel. » Or, c'est ce frisson maternel que l'horrible promiscuité étouffe dans la femme en prison quand l'enfant n'est point là. Presque toute libérée et moralement incapable d'être mère. Le petit enfant, dit M. Guyot, pauvre innocent, a aussi une place à Saint-Lazare, dont la chapelle est la seule qui possède des fonds baptismaux. Les détenues, soit qu'elles accouchent à la prison, soit qu'elles aient été arrêtées avec leur enfant, peuvent le garder pendant la période d'allaitement et de sevrage. C'est une description d'un juge qui s'appelait De Ricker qui raconte une de ses visites à la prison de Saint-Lazare en 1898. Et effectivement, comment des enfants se sont retrouvés enfermés avec leur mère, c'est une question qui taraude l'administration pénitentiaire au XIXe siècle et qui va avoir une politique un peu faite de revirement. Déjà en 1819, il y a une circulaire qui dit que les enfants de femmes condamnées à une peine de plus d'un an de prison doivent être placés ou accueillis dans leur famille s'il y en a une. C'est rarement le cas, parce que les prisonnières sont souvent des mères célibataires ou des filles-mères, entre guillemets, comme on disait à l'époque et pendant un moment. Elles pouvaient les garder uniquement pour des raisons de santé. Et dans les faits, le sujet de l'allaitement était considéré comme une nécessité de santé et a fait que des enfants en bas âge sont restés avec leur mère emprisonnés parce que c'était jugé nécessaire et la maternité s'était aussi vue comme un moyen de redressement moral pour les femmes condamnées. Par exemple, il y avait des bébés avec leur mère à la centrale de Cadillac près de Bordeaux, qui est aujourd'hui fermée. Ensuite, en 1861, les femmes enceintes et celles qui allaitent des enfants âgés de moins de 3 ans doivent être maintenues dans les prisons départementales. Donc c'est un peu l'échelle en dessous des maisons centrales. Mais l'application de cette circulaire est inégale. Et il y a une question médicale aussi liée aux moyens de l'époque qui est qu'on ne remarque pas toujours l'état de grossesse à l'entrée des femmes en prison. Ensuite, en 1883, là c'est une date plus importante qui consacre le droit entre guillemets à la maternité en prison. Il est possible qu'un enfant reste avec sa mère incarcérée jusqu'aux 4 ans de l'enfant, sans condition d'allaitement ou non. Et les enfants sont encore considérés comme un moyen de pacification des détenus. Et ça, ça prend place dans un contexte d'évolution des considérations politiques sur la maternité et la natalité. À la fin du 19e siècle, la grossesse et l'accouchement sont de plus en plus médicalisés, donc il y a des nouveaux dispositifs de surveillance et de mesure du corps des femmes qui apparaissent aussi dans un contexte croissant au début du 20e siècle de politique nataliste et d'un éveil pour l'intérêt de l'enfant. Pour donner quelques exemples de lieux d'enfermement de prisonnières enceintes ou avec leur enfant, on peut revenir à la prison de Saint-Lazare que j'ai décrite au début. C'est une prison-hôpital pour femmes qui a été ouverte de 1794 à 1927. On y enferme plus particulièrement les femmes accusées de prostitution ou les petites peines. Et là-bas, les prisonnières sont encadrées par les sœurs de Marie-Joseph. On va en reparler parce que c'est une congrégation qui a été très présente dans les prisons et notamment auprès des femmes. Et c'est aussi concomitant un mouvement de secours aux mères célibataires dans la deuxième moitié du 19e siècle, où auparavant on incitait plutôt à l'abandon des enfants. Et c'est à Saint-Lazare qu'on va instaurer un premier quartier spécifique dit des nourrices. En 1923, une partie des sœurs de Marie-Joseph vont être transférées avec les prisonnières enceinte ou mère de jeunes enfants à Fresnes. Là-bas, les bonnes sœurs, elles vont gérer la maternité, la pouponnière, l'infirmerie des hommes. Et il va y avoir un quartier nursery qui accueille des prisonnières majeures comme mineures. Donc, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il a existé d'autres lieux d'enfermement, de relégation, dus à une maternité considérée hors norme par des adolescentes qu'on a appelées des filles mères jusque dans les années 70-80, ou des femmes célibataires. Sous Vichy, une loi de 43 oblige les départements à créer au moins une maison maternelle. C'est un lieu où les jeunes femmes sont très surveillées et peuvent demeurer au maximum 3 mois après la naissance de leur enfant. En 1953, il y aura aussi un décret pour créer des hôtels maternels où là, des chambres sont réservées aux jeunes mères avec une garde d'enfants en journée contre une modeste somme d'argent pour les mineurs et pour les majeurs, mais là encore avec tout un dispositif de contrôle et de surveillance. On peut aussi citer un établissement du Bon Pasteur, qui est une congrégation religieuse où de nombreuses mineures étaient enfermées en France.
Et il y en a une émission sur le Bon Pasteur.
Ouais, on en a déjà
parlé. Il y a une émission entière dessus qui est retrouvable sur le blog.
Voilà. Et donc c'était un Bon Pasteur à Marcq-en-Barœul dans le nord de la France qui s'est spécialisé en 1956 dans l'enfermement et la rééducation des mineures enceintes ou avec un enfant en bas âge. Enfin voilà, les maisons maternelles et ce genre de dispositif, ça mériterait une émission à part entière. Et pour revenir vraiment à la prison même, en 1945, les mères prisonnières peuvent garder leur enfant avec elles jusqu'à l'âge de 18 mois et non plus 4 ans au nom de l'intérêt de l'enfant. Parce qu'on estime que la vie en prison, au-delà de 18 mois, serait trop traumatisante et deviendrait nocive pour le développement de l'enfant. Enfin, en 1977, le quartier Nursery de Fresnes est transféré à Fleury-Mérogis, qui est alors une prison très récente. La maternité va rester un moment à l'hôpital de Fresnes. Et c'est là que seront envoyées les femmes à partir de 7 mois de grossesse. Et donc, à la nurserie de Fleury-Mérogis, il y aura toujours les sœurs de Marie-Joseph qui vont y rester quand même jusqu'en 1985. Et voilà, c'est vrai que c'est interpellant de voir que la laïcisation des prisons et des lieux d'enfermement pour femmes a été très tardive et qu'il y avait un déménagement tout au long du XXe siècle, des femmes avec les bonnes sœurs, avec les enfants en même temps. Et maintenant, on va un peu voir l'état des lieux de comment les femmes enceintes sont enfermées avec leurs enfants aujourd'hui en France.
Ouais, du coup, pour poursuivre, on va donner quelques chiffres un peu. Qu'est-ce que ça représente, en fait, les femmes enfermées, aujourd'hui les mères enfermées. Au 1er mars 2024, sur la population carcérale totale, les femmes, ça représente 3,4% des personnes incarcérées, soit 2607 femmes pour 76 766 détenus. Ces femmes sont enfermées dans des établissements ou des quartiers, en tout cas au moins spécifiques pour femmes. Il y en a 70, avec une répartition géographique qui va être inégale selon les régions. Et parmi, du coup, ces 70 établissements ou quartiers, en 2023, il y a 31 établissements qui disposent soit de cellules mère-enfant, soit d'un quartier nursery. Donc, on expliquera un peu plus
comment ça fonctionne.
Tout à l'heure, comment ça fonctionne. Ouais. Mais voilà, du coup, il y a donc 31 établissements qui disposent de ces places-là, ce qui fait 81 places en tout. Du coup, c'est des dispositifs qui permettent notamment soit aux mères qui ont accouché en détention, soit aux mères qui sont incarcérées et qui ont un enfant très jeune au moment de leur incarcération, de vivre un temps avec leur enfant en prison. Et du coup, aller dans un de ces dispositifs-là, donc nurserie ou cellule mère-enfant, comme il y en a peu, ça fait que ces femmes peuvent être enfermées encore plus loin de chez elles. Ce qui va aussi faire un isolement du reste du cercle familial et des soutiens qu'elles peuvent avoir à l'extérieur. D'après le fichier national des détenus de 2002, donc ça remonte un peu, je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais il y a 42% des femmes incarcérées qui seraient mères à leur entrée en détention, donc presque une sur deux. Et on a, selon les années, le nombre d'accouchements du coup change, mais à peu près une soixantaine de femmes qui accoucheraient chaque année en prison. Au 1er octobre 2024, il y avait 30 femmes enceintes incarcérées et 16 enfants qui vivaient avec leur mère en cellule. Donc ces chiffres-là, je ne vais pas en donner plus parce que c'est déjà pas mal, ces chiffres-là, ça laisse un peu croire que l'enfermement des femmes, c'est quelque chose de marginal par rapport à l'enfermement des hommes. Et quand on regarde tout au long de la chaîne pénale, on retrouve déjà cette disparité. À des taux qui vont être, plus on se rapproche de la prison, plus l'écart il va se creuser. C'est-à-dire que déjà, il y a moins de femmes qui sont arrêtées et placées en garde à vue que d'hommes, de façon générale. Parmi ces femmes qui sont placées en garde à vue, il y a un taux encore, il y a un taux plus bas que les hommes qui vont être poursuivis pour les faits reprochés, pénalement en tout cas poursuivis. Et parmi les femmes qui sont poursuivies et qui passent en procès, le nombre qui partent, le pourcentage qui partent en prison est aussi plus faible que le nombre d'hommes qui comparaissent face à un juge. Du coup, il y a plusieurs éléments d'explication qui peuvent être avancé. Donc il y a certains qui disent que les femmes, elles seraient moins délinquantes que les hommes en raison de leur socialisation, qui leur inculquerait davantage de rester à leur place et de pas faire de vagues. Il y a le fait que les femmes sont moins contrôlées par la police dans l'espace public, et donc comme elles sont moins contrôlées, elles sont aussi moins susceptibles d'être arrêtées, qu'on trouve des choses sur elle qui conduisent à une arrestation, et que les juges seraient moins enclins à enfermer des femmes avec l'image de la femme qui serait fragile et pour qui l'incarcération serait plus dure à subir que pour un homme. Il y a d'autres éléments qui sont parfois avancés, qui tiennent plus ou moins la route. Il y en a un autre qui est que les femmes, elles subissent davantage un contrôle via d'autres institutions que la prison, que les hommes. Par exemple, le retrait et placement des enfants, le suivi par des institutions dites sociales. Et d'ailleurs, dans la loi, il y a plusieurs dispositions qui incitent les juges à préférer des alternatives à la détention pour les parents, notamment pour les parents isolés qui élèvent seuls un enfant de moins de 10 ans. Et donc ce dispositif, généralement, il s'adresse aux femmes, parce que bien souvent, les parents isolés qu'ont la garde d'un enfant de moins de 10 ans, c'est plus souvent les mères que les pères. Et du coup, voilà, il y a tout, en plus des biais que peut avoir le juge ou des différents éléments dont j'ai un peu parlé, il y a aussi le fait qu'il y a des incitations concrètes données au juge pour essayer de privilégier des alternatives à l'incarcération pour les mères d'enfants assez jeunes, enfin au moins de 10 ans. Et du coup, là, on peut voir un peu les choses différemment, parce que malgré ces incitations, il y a quand même plus de 1100 mères qui sont enfermées en France de façon... généralement, quoi. Si la maternité, du coup, ça peut être un élément qui peut permettre d'échapper à la prison pour une infraction donnée, celles qui sont mères et vont être enfermées, envoyées en tôle quand même, sont souvent celles qui vont être considérées comme de mauvaises mères par la justice. Donc il y a celles qui sont condamnées pour des actes commis contre des enfants, mais contrairement à un fantasme un peu répandu, des rumeurs un peu répandues, ça reste une petite minorité. Et parmi les mères enfermées, en revanche, il y a une grande partie des femmes qui ont des enfants déjà placés ou suivis par l'aide sociale à l'enfance, donc l'ASE, avant leur incarcération. Et du coup, qui vont en fait souvent avoir subi toutes les institutions répressives dont je parlais avant, mais qui vont pour autant continuer d'être arrêtées pour des trucs et qui, du coup, le juge va se dire bah, « là, il n'y a plus que la prison ». Ou alors, étant donné qu'elles sont considérées comme de mauvaises mères, elles sont perçues comme dangereuses pour l'enfant, voilà, pouvant pervertir sa moralité, son éducation. Et le fait qu'elles soient mères va alors pas jouer comme un élément en leur faveur qui va leur permettre d'échapper à la prison, mais au contraire, ça va être, ça peut jouer en leur défaveur, le juge estimant que pour le bien de l'enfant, c'est mieux si la mère est écartée ou si elle reste en prison. Par exemple, il y a des exemples. On a trouvé dans des recherches d'une femme enceinte qui a eu son aménagement de peine qui a été refusé au prétexte qu'elle aurait des meilleurs soins médicaux et un meilleur suivi en restant en détention. Et que du coup, pour le bien de l'enfant à naître, c'était mieux qu'elle reste en prison plutôt qu'elle sorte. De la même façon, celles qui vont être jugées comme de mauvaises mères ou comme ne remplissant pas correctement leur rôle, même si c'est pas directement pour ça qu'elles vont être envoyées en prison, pas forcément parce qu'il y a un acte de maltraitance pour lequel elles vont être poursuivies, mais ça va jouer comme un élément de la personnalité qui, pour le juge, veut dire qu'elle elle est pas réinsérable, quoi, parce que elle correspond pas aux normes qui sont attendues pour une mère.
Et t'as tout ce qui est psychiatrisation et la psychiatrie qui concerne beaucoup les femmes et qui est aussi un motif important de retrait de la garde des enfants, etc.
Et du coup, je vais lire une chronique de La Sellette. Donc La Sellette, c'est un site internet qui met des comptes rendus d'audience. Voilà, qui montre un peu justement comment... Enfin voilà, une histoire de deux femmes qui vont être condamnées où le fait qu'elles soient perçues comme de mauvaises mères, ben, ça joue en leur, en leur défaveur dans la représentation que le juge a d'elles. Donc Toulouse, chambre des comparutions immédiates, mars 2024. Mira B et Jelena D, nées à Sarajevo il y a 19 ans, comparaissent pour avoir volé leur carte bleue à 27 personnes, approchées sous différents prétextes pendant qu'elles recherchaient leur titre de transport. D'emblée, la présidente est réprobatrice. La plupart des victimes sont des dames âgées. L'une d'elles avait même une canne. Avec les cartes volées, les prévenus allaient immédiatement retirer de l'argent et faire quelques courses. Deuxième indignation de la présidente. Il y a des achats au bureau de tabac et dans un magasin de cosmétiques. Si encore elles avaient acheté du pain, elle les interroge. Pourquoi êtes-vous entrée dans ce système? Parce qu'on a l'impression que c'est un véritable mode de vie. Nous, on vole parce qu'on n'a pas de travail, pas d'argent. Je vois à peu près le discours, mais ce qu'on veut savoir, c'est qui il y a derrière vous, à qui va l'argent? Pour les vêtements, pour manger, pour les enfants. Ce n'est pas une explication. En France, il y a des associations qui distribuent de la nourriture et prennent en charge les enfants en bas âge. Vous faites partie d'un réseau? Non. Bon, après tout, vous avez le droit de raconter ce que vous voulez, hein. Sans perdre plus de temps, elle s'adresse à la deuxième prévenue. Vous êtes enceinte de 6 mois et vous avez déjà deux enfants qui ont 4 et 1 an, alors que vous n'avez que 19 ans. C'est le même papa? Les deux premiers, oui, mais pas celui dont je suis enceinte. Où sont les enfants? En Bosnie, avec leur père. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? Mais elle n'écoute pas vraiment la réponse et passe rapidement la parole à deux messieurs respectables pour qu'ils témoignent des tracas occasionnés par le vol. Après leur demande de réparation de leur préjudice moral, la procureure commence ses réquisitions. Comme toujours pour la magistrate du parquet, les faits sont à la fois très simples et très graves, d'autant plus qu'ils n'ont pas été commis pour acheter seulement le strict nécessaire. Voilà qu'à son tour, elle évoque les associations qui distribuent à manger. Elle finit en martelant que les pickpockets sont un fléau et demande donc tout naturellement 30 mois de prison, dont 15 de sursis. Désolée de ne pas pouvoir requérir d'interdiction du territoire pour cette infraction, elle se résout à ne demander que l'interdiction de séjour en Haute-Garonne pendant 3 ans. Les deux avocats plaident le parcours de misère. Ce sont des jeunes femmes qui ont eu assez peu de chance dans la vie. Même si l'intente, un mouvement audacieux. On va se dire les choses. Ces jeunes filles seront expulsées du territoire. Pourquoi leur faire passer 15 mois en détention à Cès avant ? La présidente rend le délibéré. Elles sont toutes les deux condamnées à 24 mois de prison, dont 12 mois de sursis, et maintenues en détention pour la partie ferme. Et là, elles repartent en détention. Est-ce qu'elles ont bien compris ? Pas sûr, mais peu importe. L'escorte les ramène au geôle. Quelqu'un se chargera bien d'annoncer à Jelena D qu'elle accouchera en prison.
Donc, ça se voit que la catégorisation comme mauvaise mère, ça joue beaucoup contre des femmes étrangères. Ou voilà, de ne pas avoir des enfants du même père, d'être trop jeune pour être mère. Et ce qui est un peu frappant, le parallèle qu'on pourrait faire avec la xénophobie, c'est qu'en lisant un peu des textes du 19e, du 20e sur Saint-Lazare, il y avait déjà pas mal de références qui relèvent de l'anti-tiganisme sur il y a beaucoup de mères dites gitanes ou romanichelles qui viennent accoucher là. Donc voilà, c'est... Enfin, ça fait partie de la catégorisation des mauvaises mères et c'est un truc qui dure depuis longtemps. On va écouter Proras de Princesse Nokia et on revient après.
Ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, so I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, so I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, so I say to the door. We them ghetto bitches, speaking in tongue bitches, fall on the floor, so I say to the door. Talk shit, we the cast spell, walk weak. Nails, pool rope, pigtail. Baby fuck, still in jail. Good witches I fuck with. Bad bitches, we run shit. Four bitches, four corners. North, east, west, south shit. Good witches I fuck with. Hot door for my broomstick. Witchcraft, bitchcraft. Like magic is nothing. I reach in my altar. I reach in my altar. I reach in my altar. Like coins on the counter.
I'm that black Rican bruja straight out from the Yoruba. And my people come from Africa, diaspora, Cuba. And you mix that Arabic, that original people. I'm that black native American, I vanquish your ego. I'm that black Rican bruja straight out from the Yoruba. And my ancestors Nigerian, my grandmas with brujas. And I come from an island, and it's called Puerto Rico. And it's one of the smallest, but it got the most people.
I'm reaching my altar, I'm reaching my altar, I'm reaching my altar. Got coins on the counter. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. I'm reaching my altar. Got coins on the counter.
Don't you fuck with my energy. 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 Cast the spells with my cousin. I'm the head of this dubbing. I'm a shapeshifting bitch. You don't know who you love it. Candle. I heard the nighttime was black. And if you don't watch your step, the greatest bitch will be back. I cast a circle in white, and I can vanquish your spike. And if you hex me with hate, then I'ma conjure the light. Your evil ways put no fight. I ain't no queen of the night. I'm a bruja, and I'ma dress in all white.
Vous êtes de retour dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire jusqu'à 22h. On continue à parler de la maternité en prison. Et là, on va un peu se pencher plus spécifiquement sur le déroulement de la grossesse, du suivi obstétrical et de l'accouchement, des droits reproductifs. Et...
Alice, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou... Ok, j'enchaîne. Alors,
Oui, sinon, juste du coup pour dire, là on va parler un petit peu des femmes, de leur grossesse, accouchement, détention, puis de celles qui peuvent rester du coup en prison avec leur enfant. Et après on parlera plus du coup des liens avec les enfants en dehors. Enfin, du coup, des femmes qui sont incarcérées et qui, comment elles arrivent à être mères avec, sans être en lien quotidien avec leur enfant du fait de l'incarcération.
Pour en dire un peu plus sur la grossesse et l'accouchement, j'avais envie déjà de dire quelques mots sur la contraception et le fait que l'accès n'est pas... très facile à la contraception, que ce soit à des pilules ou aussi aux IVG. Et pour ça, je vais vous lire un témoignage qui est issu du guide du prisonnier de l'OIP. Des patientes témoignent aussi de situations d'incompréhension, de difficultés à obtenir certaines informations ou le moyen de contraception auquel elles étaient habituées. En général, la première chose que l'on entend quand on demande une contraception, c'est « pourquoi faire ?» Surtout en maison d'arrêt, puisqu'il n'y a pas d'UVF, d'unité de vie familiale, rapporte une femme. Trois autres affirment s'être vu refuser l'accès à un contraceptif. Une détenue raconte avoir été contrainte de récupérer une pilule en parloir sauvage. Une autre témoigne qu'au retour d'une permission, on lui a dit qu'il n'y avait pas de contraception d'urgence en prison. Après m'être énervée et m'être fait engueuler par l'unité sanitaire, on me l'a remise après 48 heures, soit à la limite de son efficacité à cause d'un problème de livraison. Ma pilule habituelle avait aussi été livrée en retard. D'autres femmes rapportent la présence non désirée de surveillantes pendant des IVG, des accouchements, ou comme cette femme, lors de soins faisant suite à une fausse couche. Je suis restée attachée au lit de l'hôpital avec les deux surveillantes dans la chambre pendant 2 jours et dans la salle où j'ai vu le médecin. Pendant les soins, elles sont restées à me regarder alors que je souffrais beaucoup. Particulièrement attentatoire à la dignité, le port des menottes et ou entraves est en outre souvent imposé aux patientes alors qu'elles sont escortées jusqu'à l'hôpital de rattachement. Celles qui allaient en gynéco à l'extérieur, souvent pour les grossesses, elles sortaient entravées, menottées, devant toute l'assistance. Et c'était traumatique. Donc tu te dis, c'est quoi le pire ? Rester dans la prison ou sortir et être affichée ? Explique une femme un temps incarcérée à la maison d'arrêt des femmes de Versailles. Donc ça, c'est sur comment ça peut se passer, le fait d'avoir accès à la contraception, à l'IVG, et puis de manière générale aux soins liés à une grossesse, le cas échéant, et dont on va parler aussi dans la suite. Ça fait le lien avec un témoignage que j'ai lu pour préparer cette émission, qui est le témoignage de Marie, qui est incarcérée en 2020. Et quand elle est mise en prison, elle sait pas qu'elle est enceinte. Comme c'est 2020, qu'il y a le Covid, il y a une quarantaine. Donc elle met du temps avant de pouvoir avoir une première visite médicale, pendant laquelle elle fait une prise de sang. Et en fait, la prise de sang va dans le sens qu'elle serait enceinte. Sauf qu'il s'est déjà passé beaucoup de temps depuis lors. Et du coup, elle est extraite de la prison. Elle va à l'hôpital, elle a une consultation gynécologique et là le gynéco lui confirme d'une part qu'elle est enceinte et d'autre part lui dit qu'en fait c'est trop tard pour avorter. Qu'elle est hors délai quoi. Donc dans ce cas-là la prisonnière Marie, elle avait envie de garder l'enfant mais ça pose quand même question sur le fait que l'accès à ce genre de procédure peut être vraiment compliquée. Et quand elle est dans cette consultation avec ce même gynéco, elle dit dans son témoignage, elle se demande est-ce que les soignants se comportent mal
parce que on est des meufs, ou est-ce qu'ils se comportent encore plus mal parce qu'on est des meufs et des prisonnières. Et c'est vrai qu'en fait le gynéco fait un peu peu de cas d'elle, lui balance les nouvelles comme ça, alors que ben c'est des choses importantes de confirmer qu'on est enceinte, de voir une échographie, etc. Et que il faisait très peu cas de ce qu'elle ressentait et de ses émotions. Ensuite, pour la suite de sa détention, et comme c'est la règle, elle est transférée en quartier nursery, dont Yentl va nous parler plus précisément après, avant les 7 mois et demi de grossesse. Et ça, c'est fait pour éviter que les prisonnières fassent des fausses couches. Et là, à ce moment-là, du coup, elle arrive dans ce quartier nursery et elle raconte sa rencontre avec une codétenue et son enfant qui est déjà présent dans ce même quartier. Et je vais vous lire ça tout de suite. À mon arrivée, une maman était déjà présente avec sa petite fille. Elle était seule depuis 2 mois et était contente de voir quelqu'un d'autre. Donc elle m'a très bien accueillie. C'est pas uniquement le personnel qui m'a expliqué le fonctionnement de cet endroit, c'est elle. Il y avait, au bout du couloir, une salle de jeu avec une table, des tapis de jeu et un coin cuisine. Le four était dépassé, mais le micro-ondes nous était bien pratique. La cellule mère-enfant était de taille convenable, il y avait notre lit, le lit pour bébé, la table allongée avec une baignoire intégrée, le chauffe-biberon et un frigo. Hormis le grand ménage que j'ai dû faire, je n'avais rien à dire. Elle m'a appris que chaque vendredi, il y aurait la livraison des produits pour notre enfant. Une feuille était à remplir et on commandait ce qu'on voulait. La taille des couches, le type de lait, les produits pour le change. On ne choisissait pas les marques de tous les produits, mais si ça ne convenait pas, on pouvait faire une réclamation. Déjà qu'on payait pas, je n'allais pas me plaindre de toute façon. La poussette était aussi fournie et il y avait une cellule qui contenait tout un stock de vêtements de toute taille pour enfants, si jamais on n'avait pas la possibilité d'en avoir par nos familles. J'ai su que ce serait à mon retour de la maternité que seraient mis dans la cellule les biberons, les tétines, les couches et tout le nécessaire pour un nouveau-né. Je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais pas les avoir avant, afin de tout ranger avant l'accouchement. Mais j'ai appris un peu plus tard que c'était comme ça, car certaines mères ne revenaient pas avec l'enfant. Faire venir les produits pour rien n'était pas pratique. Nathalie m'avait très bien expliqué les choses et rencontrer sa fille m'avait procuré une sacrée émotion. Je n'avais jamais été en contact avec des bébés. J'avais dû changer une couche ou une ou deux fois dans ma vie seulement, de même que donner un biberon. Pour moi, ils étaient tellement petits et fragiles, j'avais peur de les casser. C'est Nathalie qui m'a aidée à prendre confiance. Au cours de quelques semaines avant la naissance, elle m'a donné des cours, si je puis dire. Elle m'a laissé donner le biberon, m'a montré comment le préparer, elle me laissait garder la petite quand elle voulait un peu de temps pour elle. C'était une preuve de confiance qui m'a aidée à évoluer. Donc on voit aussi dans ce qu'elle raconte que les prisonnières s'aident entre elles, s'entraident, parfois aussi gardent leurs enfants pour que l'une puisse aller travailler et que y a tout un système qui peut s'organiser dans ces quartiers nursery. Avant de continuer sur la suite du témoignage de Marie, j'aimerais qu'on écoute d'abord un petit extrait sur un accouchement à Fleury qu'on va commenter juste après.
Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu des contractions la nuit et j'ai rien dit. Et puis, normalement, il faut sonner. Il y a une sonnette parce que j'ai déjà sonné plusieurs fois. Tout ça. On m'emmenait à l'hôpital, mais c'était une fausse alerte. Donc, on me ramenait. Et du coup, j'avais peur, vous voyez, j'ai pas osé. Donc, quand on m'emmenait au repas à 11h30, il y avait madame, Carole, elle est venue et elle me voyait pleurer. D'habitude, elle me voit pas. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai des contractions, tout ça et tout. Elle m'a dit, il faut aller au médical. Et avec le gradé, ils sont venus me chercher. Et c'était entre midi et deux. Heureusement, j'ai eu la chance qu'elle avait la gynécologue. Ils ont appelé les pompiers entre-temps. Et les pompiers sont arrivés. Elle a dit, ça va pas le faire. Si vous partez, vous allez faire dans le camion.
Donc, parce qu'en fait, vous étiez en train d'accoucher.
Voilà, la tête était basse, tout ça et tout. Elle m'a dit, ils ont tout préparé le matériel. Et moi, je pleurais, je voulais ma péridurale. Elle m'a dit, il n'y a pas de péridurale ici. Et donc j'ai accouché là-bas, il était 14h. Il y avait notre chef, là, Madame Désir, il y avait la directrice, il y avait tout le monde, tout ça et tout. Et il y avait le SAMU aussi, ils sont venus. Et la péricultrice était là, était venue. Elle a même mis mon fils dans un papier de cadeau. Et j'ai dit, j'avais peur. En fait, elle m'a dit, c'est pour qu'il a chaud. Et après, les pompiers m'ont ramené à l'hôpital. Je suis partie à l'hôpital.
Donc là, c'est un cas assez rare d'accouchement directement dans la prison, parce que la plupart du temps, en fait, tout est préparé à l'avance, les accouchements sont déclenchés, et du coup, les prisonnières enceintes sont transférées une semaine à l'avance dans les UHSI, donc les unités hospitalières sécurisées, réservées aux prisonniers. Et voilà, du coup, tout est un peu organisé de manière à ce que ce genre de situation ne se passe pas. Mais si ça arrive d'ordinaire, il y a quand même une disposition prévue dans la loi qui dit que la mention de l'adresse sur l'acte de naissance de l'enfant ne doit pas mentionner que c'est dans une prison, mais doit seulement mentionner l'adresse et la ville, quoi. Enfin, dans l'idée, j'imagine, de pas stigmatiser l'enfant. Toujours est-il que du coup, ce moment de l'accouchement, qui est un moment un peu grave intense dans une vie, quoi, est rendu totalement contraint par la prison, puisque bon, déjà il y a ce truc du déclenchement. Les prisonnières sont transférées dans des chambres spéciales dans une maternité où il y a un policier qui est en permanence devant. Voilà, donc il y a toute cette surveillance. Les visites à l'hôpital sont possibles uniquement par des personnes qui ont déjà les permis de visite. Et donc, en fait, ce moment, important dans une vie, un peu genre transformé par l'enfermement, quoi. C'est assez courant une fois qu'on vient d'avoir un enfant et de donner naissance, de recevoir de la visite de plein de proches, de présenter l'enfant, etc. Ce qui est pas du tout possible quand on est en prison. Et aussi un truc qui m'avait marqué dans les différents témoignages que j'ai lus, c'est qu'en fait, par exemple, la mère, les parents auront pas de photos des premiers temps de l'enfant. Et c'est quand même des premiers mois, ou en tout cas de tout le temps où l'enfant va être en prison, parce que la plupart du temps, il n'y a pas de possibilité de prendre de photos, quoi. Et c'est quand même un truc important que la prison, elle enlève aux gens la possibilité d'avoir des souvenirs, même aux enfants eux-mêmes. Donc c'est pas du tout anodin le fait d'accoucher tout en étant prisonnière. Et puis, pour faire la transition sur ce dont tu vas nous parler, Yentl, ensuite, la prisonnière retourne en prison après un petit temps à la maternité. Prison dans laquelle ça va être plus difficile d'accéder à des soins nécessaires après l'accouchement, type rééducation du périnée, tout le suivi médical nécessaire, qui va pas forcément être à la hauteur de ce qui serait attendu. On va avoir des prisonnières qui vont se retrouver enfermées une partie de la journée dans une cellule seule avec leur enfant, un enfant qui pleure, duquel ça va pas forcément être possible de s'éloigner, de prendre des pauses, d'avoir du relais. Une fois que la grossesse et l'accouchement sont passés, c'est pas la fin des difficultés en prison avec le nourrisson, loin de là.
Et ouais, pour juste rebondir sur le témoignage qu'on a entendu, cette prisonnière, elle emploie deux fois quand même le terme de peur, et qu'elle avait peur parce que de sonner la nuit, qu'elle était déjà allée à l'hôpital pour rien. Enfin voilà, il y a une espèce de, dans tous les études, les discours, surtout médicaux, sur les femmes enceintes en prison, ils ont une espèce d'analyse où ils trouvent ça irrationnel que beaucoup de prisonnières aient peur d'accoucher la nuit et de sonner ou de taper à la porte de leur cellule et qu'on ne vienne pas. Et d'accoucher seule dans leur cellule, comme c'était irrationnel, et c'est vraiment se voiler la face sur la négligence de la santé en prison. Et on sait que de plus en plus, les matons et les matones, ils sont hyper réticents à faire des extractions médicales, et que ça les fait chier. Et je pense que cette femme, on lui avait bien fait comprendre quand elle était allée à l'hôpital pour des fausses alertes, comme elle dit, que voilà, que ça les emmerdait et que les gens ont peur de demander aussi, en plus de la peur des violences obstétricales contre toutes les femmes en général, quoi.
Et par rapport au fait d'être seule la nuit en cellule, bah en fait aussi il faut se rappeler que en tôle, quand une cellule doit être ouverte pendant la nuit, il faut l'autorisation des chefs, des gradés, et que du coup ça peut prendre du temps. Donc en fait les prisonnières, elles savent que c'est pas simple d'être emmenée à l'hôpital, que c'est pas simple d'avoir des soins, etc. Donc leur peur, a priori, elles sont totalement légitimes, quoi.
Ouais, et comme on le disait plus tôt dans l'émission, il y a aussi pas mal de prisonnières qui sont étrangères, et il y a tous les biais de la médecine qui jouent, par exemple le syndrome méditerranéen, comme on appelle ça, où pour les personnes d'origine maghrébine, on va minimiser leur souffrance, dire qu'elles exagèrent, etc. Bah, du coup, on va réécouter un peu de musique. On va mettre God's Country des Lambrini Girls. Vous êtes toujours dans l'émission Carapatage jusqu'à 22h sur Radio Libertaire. On continue à parler de la maternité en prison, parce que dans l'émission, on parle régulièrement de la justice des mineurs et des adolescents qui peuvent être incarcérés à partir de 13 ans. Mais on va aborder le sujet de ceux qui sont enfermés avec leur mère, donc paradoxalement qui sont en prison mais sans avoir le statut de détenu, et dans quelles conditions. Comme on disait en introduction, quand une mère prisonnière arrive à la fin de sa grossesse, elle peut aller soit en quartier nursery, où il y a un autre dispositif qui sont les cellules mère-enfant. Donc on a déjà donné des chiffres et dit comme c'est des aménagements spécifiques, c'est encore plus rare déjà qu'il y a moins de prisons pour femmes, donc ça entraîne encore plus d'éloignement géographique des proches quand on en a. On va commencer par les quartiers nursery. Alors c'est des quartiers à part entière qui existent dans quelques tôles à Rennes, Corba, au Beaumet, à Nancy, à Gradignan et à Fleury-Mérogis. Donc dans ces quartiers-là, il y a des espaces collectifs, notamment des cours de promenade, mais vraiment petites. Parfois, il y a des jeux, mais il y a quand même des barbelés et des grillages autour, ce qui rend... Enfin voilà, faut un peu voir des photos si vous cherchez promenade, quartier nurserie, Fleury-Mérogis, vous verrez le contraste entre des petits jeux pour enfants et tous les barbelés autour, c'est assez choquant, voilà. Et donc dans ces quartiers, comme je disais, il y a parfois des espaces collectifs comme une salle de jeu pour les enfants, une salle commune, une cuisine collective. Et donc les mères détenues ou les détenues enceintes restent entre elles et n'ont pas de contact avec des prisonnières de quartier femmes lambda. Donc comme disait Henri, c'est souvent les prisonnières qui peuvent garder les enfants les unes des autres quand l'une a... un rendez-vous. Donc ça permet de l'échange et de la solidarité. Mais aussi, par exemple, à Fleury, il y a un planning pour le ménage collectif à tour de rôle. Et c'est aussi un espace où on va regarder si une prisonnière se comporte comme une bonne mère et apte aux tâches domestiques. Et c'est aussi s'exposer au jugement... de différents professionnels présents dont on va parler aussi des autres prisonnières. Donc le quartier nurserie de Fleury, c'est le plus grand de France, il y a 15 places. Et dedans, il y a des cellules équipées avec un nécessaire de puriculture, donc un berceau, une table à langer, des équipements comme ça. Et les bébés restent... en cellule avec leur mère pendant des temps parfois très longs, puisque les fermetures des portes, c'est vers 17h30, 18h, même si y a des moments en journée où c'est quand même en régime porte ouverte. Et on va écouter un extrait d'une émission où une prisonnière nous raconte comment se déroule une journée au quartier nurserie de Fleury et c'est quoi les activités.
Les portes sont ouvertes. Du côté des mamans.
Dalila est une des 6 mamans à la nurserie.
On est là, on a une pièce, sinon on est là dans la salle de jeu. Quand les enfants sont habillés, tout ça et tout, on leur fait une petite promenade, ou bien on les met à l'alte jeu, ou bien on reste dans notre cellule le temps de faire notre ménage, parce qu'on a aussi des tâches ménagères. Ensuite, ce qui est bien, c'est que maintenant on prépare à manger à nos enfants. Donc nous avons la péricultrice, bon, elle nous dit de faire des recettes pour nos enfants, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. On fait des petits menus qu'elle les accroche au mur, là. Alors on va mettre carottes, pommes de terre, féculents, etc., etc. Donc après, bon, ils nous donnent un baby cook, donc on fait à manger, on le met dans la cellule. Puis on mixe, c'est 11h30, les petits, on les fait manger. Et puis après, à midi, c'est nous, on les ramène le repas. Les portes sont fermées entre midi et deux. Donc l'enfant, là, il a le temps de faire sa sieste. Voilà, donc elle nous ouvre les portes. On reste en cellule si l'enfant, il dort. S'il est réveillé, bon, on se lève et puis on fait une petite promenade. Et puis, vice-versa, mon enfant, il mange aussi le soir. Donc à partir de 4h, je prépare son repas. Et puis à 6h30, il mange. Parce qu'à 6h, il nous fait monter les portes. Sinon, il y a des activités, parfois avec la péricultrice aussi, qui nous fait, qui est aussi là pour les enfants. L'éducatrice aussi, voilà.
On a une liste qui...
Du coup, on voit que les activités et les intervenants de l'extérieur, c'est quand même que tourner vers la maternité et l'apprentissage de la maternité. C'est la protection maternelle et infantile, des éducatrices, des professionnels de santé. À Fleury, comme c'est le plus grand quartier nurserie, il peut y avoir une puéricultrice qui est détachée là-bas et donc souvent là-bas, mais ça dépend des départements et des financements. Et ces intervenantes-là, vu que c'est en majorité des femmes quand même, ça reste quand même avec le statut d'intervenant extérieur, un peu comme les profs ou les avocats. Donc leur venue, elle reste quand même au bon vouloir du directeur ou de la directrice de la tôle, quoi. Et à Fleury aussi, il y a un truc qui est unique en France, c'est qu'il y a une crèche depuis 2019, donc qui peut accueillir 10 bébés. Et bon, d'un côté, c'est vrai que ça fait un relais pour les mères, qu'elles peuvent suivre une formation, etc. Mais c'est quand même un peu une vitrine pour l'administration pénitentiaire pour dire que, voilà, elle fait des efforts pour les mères, pour les droits des enfants, sauf que cette crèche, elle est quand même payante. Et que les prisonnières, elles vont travailler pour la payer, pour cantiner pour elles et leurs enfants. Et on sait que les salaires à l'intérieur de la prison, bah, c'est en dessous du SMIC horaire et voilà, c'est très faible. Et c'est vrai qu'il y a, dans les quartiers nurserie, il y a un discours des matones qui travaillent, des intervenants sociaux, pour dire que ce serait un adoucissement de la prison, voire pas vraiment la prison. Mais bon, c'est un peu illusoire, surtout que les places restent rares et ça se part un peu du côté on fait du social à l'intérieur de la tôle. Et c'est vrai que bah, dans certains articles de recherche qui ont été menés dans les quartiers de nurserie, il y a des matones qui ne se voient pas vraiment comme des surveillantes lambda parce qu'elles travaillent dans les nurseries. Mmh. Et je trouve que ça fait un peu penser aux bonnes sœurs qui ont encadré les femmes enceintes ou avec des enfants pendant longtemps, avec une espèce de truc charitable et comme un corps intermédiaire un peu. Et l'autre dispositif pour les mères prisonnières avec un jeune enfant, c'est les cellules mère-enfant. Alors c'est des cellules qui sont implantées au sein des quartiers femmes de certaines tôles. En général, il n'y en a que une ou deux dans les quartiers femmes, et bon, elles sont censées faire minimum 15 mètres carrés, mais souvent c'est pas le cas, et ça par contre c'est un plus grand facteur d'isolement à l'intérieur. Par exemple, à la prison de Bapaume, au moins les 6 premiers mois après la naissance, les mères sont soumises à un régime en porte fermée. Seuls les contacts avec l'autre mère avec enfant, s'il y en a une, sont autorisés, vu qu'en fait il n'y a que deux cellules mère-enfant de prévu. Et régime porte fermée, ça signifie qu'il n'y a pas de sortie de la cellule hors de la promenade ou des activités. Les activités, c'est souvent des soins à l'enfant ou des évaluations sociales. Il y a du coup encore moins de visites de professionnels médicaux. Et comme tu disais, Henri, souvent les soins postpartum, ils sont compromis. Et bah, la question de la dépression postpartum, elle est importante, je pense, surtout quand on sait maintenant que bah, le premier risque de mortalité pour les jeunes mères, c'est le suicide, en fait, à cause de dépression postpartum. Donc, dans des conditions comme ça, on se dit que la prévention, bah, elle est vraiment compromise. Et la promenade, en fait, au nom de la protection, elle se fait à des horaires spécifiques pour pas croiser des prisonnières qui n'ont pas d'enfants. Donc ça veut dire pas de soutien, pas de relais, et du coup tu restes à l'isolement, à la promenade, t'es seule, quoi. Et donc dans le contexte carcéral, ça pose aussi la question du développement de l'enfant. Il y a une prisonnière qui en témoigne et qui dit « À partir du moment où mon fils s'est mis à marcher, le soir, il allait tout le temps taper à la porte de la cellule. J'essayais de détourner son attention avec des jeux, mais rien n'y faisait. Aujourd'hui, il a des tocs. C'est dû à l'enfermement des premiers mois. » Alors, comme je disais plus tôt, l'enfant, il n'a pas le statut de détenu, donc il peut sortir quelques heures par semaine de la prison avec une éducatrice ou une puéricultrice. Mais ça va pas effacer le quotidien carcéral. Enfin, dans l'émission, on parle souvent d'un livre qui s'appelle « C'est un peu de bon sens que diable mm-hmm. » sur l'enfermement sensoriel produit par la prison. Et on imagine ça appliqué aux enfants qui, en fait, n'ont jamais connu rien d'autre que les odeurs de la prison, le bruit de la prison, des clés, des portes, ne pas voir d'herbe, d'animaux. Parfois, ils n'ont aucun contact avec des hommes avant leur sortie. Il y a aussi la question du sommeil, parce que les matones, quand elles passent la nuit, bah, elles allument brièvement la lumière pour voir si l'enfant va bien. L'ouverture des portes, voilà, même si parfois il peut y avoir quelques heures dans une crèche à l'extérieur pour rencontrer d'autres enfants, c'est pas systématique. Et on va écouter un autre extrait qui décrit comment est aménagée une cellule mère-enfant.
À 14 heures, les portes des cellules sont rouvertes à la nurserie. On est avec Nathalie, maman d'un garçon de 11 ans qui vit avec son père. Nathalie vient d'accoucher à Fleury d'une petite fille.
Donc là, on est dans ma cellule, ouais, donc c'est 9 mètres carrés, grosso modo. Moi, je dis la chambre parce que, bon, le mot cellule, ça me convient pas trop. Avec mon lit, le lit du bébé, la petite commode qui sert normalement de meuble à langer, une table et puis une partie séparée, salle de bain, donc où il y a l'évier qui sert pour faire la vaisselle et se laver, toilette et bidet. Et puis le panneau d'affichage qui nous sert un peu d'album photo. Puis voilà, sinon on a la télé, la radio, le frigo quand même, puisque on a cette chance-là d'avoir des frigos parce qu'on a des enfants. Sinon, ben, on n'en a pas. Donc ça permet, lorsqu'on cantine ou lorsqu'on achète des choses, de pouvoir tenir au frais. Puis sinon, ben, les biberons de la tête et tout ça, quoi.
Vous avez réussi à faire une petite décoration quand même?
Bah, disons que elle arrive à un âge en fait où elle regarde, donc on n'a pas beaucoup d'espace. Dans une fois que les cellules sont fermées, on n'a pas un espace énorme. Voilà, elle est dans son lit, ça lui permet d'observer. Je change régulièrement les dessins pour la stimuler. Normalement, on n'a pas le droit d'afficher au mur, mais bon, il nous le tolère parce que bon, voilà, ça concerne les enfants, donc c'est sûr que si on en met plein partout, là, ça va pas passer. Donc surtout qu'on a des fouilles de cellules régulièrement, bon, au prix au hasard, environ une fois par mois. Donc voilà, donc normalement, ce genre de choses.
Du coup, voilà, on peut voir comment le règlement carcéral et son arbitraire en lui-même, il heurte le développement de l'enfant et il l'entrave. Et tout à l'heure, on disait que les prisonnières, elles pouvaient garder leurs enfants avec elles jusqu'à 18 mois. Depuis 2023, il y a une circulaire qui dit qu'il n'y a plus de limite d'âge. Mais déjà, pour demander des dérogations, en général, c'est si la mère va être libérable bientôt. Et ça reste quand même conditionné, un passage devant une commission, l'avis d'un juge, etc. Donc ça reste aussi arbitraire à qui est-ce qu'on le permet. Et à la fin du reportage dont on a écouté des extraits, en fait c'est juste une matone qui le raconte, mais en fait il y a une embrouille entre une prisonnière au quartier nursery, une matone, et en fait ils vont intervenir à plusieurs. On nous dit juste que la mère, elle part à l'hôpital. Alors, on ne sait pas si c'est parce que les matons, ils l'ont blessée ou s'ils l'envoient en HP et qu'en fait, son enfant, il va partir à la pouponnière. Et c'est une structure de l'aide sociale à l'enfance pour les tout petits enfants. Donc voilà, ça reste la séparation avec l'enfant. Ça reste un couperet qui peut tomber un peu n'importe quand, avant 18 mois, si tu as des problèmes avec les matons, etc. Donc l'idée de rendre la tôle aménageable, elle est complètement illusoire. Et en fait, elle organise l'isolement des mères et de leurs enfants. Et avec en fait une accumulation de dispositifs de surveillance propres aux femmes, psychiatriques, carcérale, sociale, et dans des conditions qui de toute façon donnent tort aux mères et les abîment, parce qu'on va les trouver trop fusionnelles. Mais quand t'es enfermée des heures dans 9 mètres carrés avec un bébé, bah ouais, tu deviens fusionnelle. Et quand t'as pas de proches, et d'un côté, comment tu peux t'investir quand t'as le couperet dès 18 mois ou moins ou plus, où on sait pas trop qui va tomber et que tu vas être séparée de ton enfant. On va réécouter un peu de musique avec Miroir sur l'album Pretty Doll Corpse.
Je te laisserai saccager ma part. T'es beau avec ma blague, t'es beau avec mon...
T'es beau avec ma peine,
je suis si belle avec tes corps.
Ma petite remballe ta haine,
bouge ta belle bouille de la corde.
Entre les mauvais accords,
prends soin de toi d'abord.
Si tu les rares parles au micro comme je parle au vide.
Et ensuite on verra, et ensuite on verra.
Avant déjà la maman avait prévu ton oreille.
Le soleil était radieux, elle s'est tournée plus de rail.
Je regarde des gens, mais quand c'est toi, c'est pas pareil.
Mais quand c'est toi, c'est pas pareil.
Je t'aime un peu plus aujourd'hui que toi, tu t'aimais la veille.
Force de me guetter, je me suis gâché.
Les péchés de la vie boissés
sont basés sous les rideaux.
Tu fais ta part, c'est bois haché.
Toi, c'est mais ça m'a fâché.
On regarde dans le reflet du bigot.
Devant le miroir, la vie est tachée.
Les humains, j'en ai assez.
Les humains, j'en ai assez.
Je nettoie pas les draps qu'on attachait.
Les souvenirs de nous m'y attachaient.
Vous êtes toujours dans Carapatage sur Radio Libertaire 89.4. Pour terminer cette émission sur la maternité en prison, on va se demander comment ça se passe d'être mère quand on est emprisonné loin de ses enfants et comment on peut retrouver son rôle à la sortie de prison.
Du coup, en théorie, le droit au maintien des liens familiaux, c'est un droit qui est affirmé par différents textes de loi. Dans le règle des Nations Unies pour le traitement des détenus, dans la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 35 de la loi pénitentiaire de 2009. Bref, il y aurait d'autres textes. En tout cas, c'est souvent réaffirmé. Du coup, la pénitentiaire, elle est censée... mettre à disposition des dispositifs de téléphone, de visite qui permettent aux détenus de garder des liens avec leur famille et du coup aux mères avec leurs enfants. À part dans des situations où il y a un juge qui a prononcé un retrait de l'autorité parentale, mais sinon c'est pas parce qu'on est enfermé qu'on est déchu de ses droits parentaux automatiquement. Et du coup, le parent incarcéré doit être associé aux décisions qui concernent son enfant, notamment les décisions médicales, scolaires, voilà. Donc ça, c'est en tout cas ce qu'il y a dans le droit. Après, dans les faits, l'incarcération, ça rend souvent... difficile l'exercice effectif de l'autorité parentale parce que on n'est pas avec son enfant au quotidien, on suit pas, il y a des décisions qui doivent être prises des fois en urgence par la personne qui a la garde à l'extérieur et du coup on va pas être tout le temps associé et que les contacts, que ça soit téléphonique ou visite, c'est compliqué. L'enfant, il peut rendre visite à son parent emprisonné, mais pour ça, il doit posséder un permis de visite, donc comme un adulte, et il doit être accompagné d'un adulte qui doit détenir un permis de visite également. Il peut pas être accompagné par n'importe quel adulte qui serait disponible ce jour-là pour l'accompagner au parloir. Et sauf pour les enfants de plus de 16 ans, enfin pour les 16-18 qui, eux, peuvent rendre visite à un parent s'il y a l'autorisation des personnes qui détiennent l'autorité parentale, mais qui n'est pas obligée d'être accompagnée. Et du coup, l'enfant, non seulement il est soumis au fait qu'il doit posséder un permis de visite, mais il est soumis aux mêmes contraintes que les adultes quand il se rend en prison, c'est-à-dire les mêmes fouilles pour pouvoir entrer en détention, par exemple, le même temps d'attente long dehors pour pouvoir passer les contrôles. Et beaucoup de visites se font dans les box de parloirs normaux, du coup, qui sont déjà assez austères pour les adultes de façon générale. Mais on peut bien se rend, enfin on se rend bien compte que pour des enfants qui peuvent avoir besoin de bouger, de jouer, c'est encore plus bizarre de se retrouver assis à une table dans un tout petit box de parloir, quoi.
Ouais, parce qu'il n'y a pas les relais par enfant partout, ou c'est des salles un peu à
manger. Je vais en parler après.
Pardon pour le spoil.
Du coup, enfin, ça c'est pour du coup les parloirs lambda. Après, dans certaines prisons, effectivement, il y a des relais parents-enfants qui existent. C'est dans environ la moitié des prisons aujourd'hui. Du coup, c'est des parloirs qui sont un peu plus grands et avec quelques jouets, mais bon, c'est pas la panacée tout de même. Et du coup, si je revenais sur les conditions de visite, c'est aussi parce que du coup, il y a quand même beaucoup de parents qui voient un moment refuser que leur enfant leur rende visite à cause de la maltraitance que représente le fait de devoir pour leur enfant subir la prison quand ils viennent rendre visite à leurs parents enfermés au parloir. Et du coup, pour les relais parents-enfants, du coup, je vais lire le témoignage d'une mère, enfin la description qu'elle fait d'une qu'une mère fait de cette salle relais enfants-parents. Donc, il y a une petite salle relais enfants-parents d'environ 5 mètres carrés, je dirais. À l'intérieur, une table, quelques chaises, mais complètement détériorées. Il y a aussi quelques jeux, des livres avec des pages qui manquent, des jouets d'éveil. Soit on a accès à cette salle en mode familial, c'est-à-dire avec nos enfants, les grands-parents, soit par l'intermédiaire de l'ASE si nos enfants sont placés. Bon, on voit que ça fait pas, pas rêver quand même les relais enfants-parents, même si voilà, il y a certaines prisons où c'est plus grand que 5 mètres carrés en tout cas, où ben voilà, d'une tôle à l'autre ça peut être différent et ça peut être un peu mieux aménagé selon ce que le chef d'établissement a décidé de faire, mais ça change pas qu'il y a quand même bah, toutes les contraintes de devoir entrer en détention, d'être surveillé, du temps court et des possibilités limitées de pouvoir créer du lien dans notamment, cet environnement-là. Notamment avec des enfants qui sont plus faits pour bouger, jouer et pas rester assis à discuter bien sagement pendant 45 minutes avant de devoir repartir dans l'autre sens, quoi. Souvent, les visites, du coup, c'est soit au parloir, soit au relais enfants-parents. Il y a aussi ce qu'on appelle les parloirs familiaux, les UVF. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. C'est des dispositifs qui permettent un peu d'avoir des meilleures conditions de visite et surtout des visites plus longues, avec moins de surveillance et pour une durée où on n'arrive pas à notre début de parloir, bah, c'est déjà la fin. Mais avec des durées un peu plus longues. C'est des dispositifs qui sont assez rares et où, du coup, la plupart des détenus n'y ont pas accès de façon très fréquente. Une des différences entre un des points qui est important dans la maternité enfermée, qui est plus spécifique à la maternité, c'est que souvent, quand le père est incarcéré, c'est la mère qui est à la garde des enfants. Dans le cas des mères en prison, ça arrive que le père ou un autre membre de la famille puisse obtenir la garde, mais ça arrive également beaucoup plus souvent que dans les situations où c'est les hommes qui sont incarcérés, à ce que l'incarcération entraîne le placement des enfants à l'ASE. Même si l'acte reproché pour lequel la mère est condamnée n'est pas forcément lié à des violences ou à des manquements vis-à-vis de ses enfants. Souvent déjà, il y a des mères qui ont déjà des enfants placés. Il y a beaucoup de mères en prison qui ont déjà des enfants placés avant leur incarcération. Et en plus, l'incarcération entraîne plus souvent des placements. Et du coup, ça a aussi un impact sur la manière dont les liens entre mère enfermée et enfant vont pouvoir se maintenir dans le temps, cette histoire de placement. Parce que du coup, quand il y a un placement, c'est le juge des enfants qui doit se prononcer sur la fréquence des visites. L'éducateur doit être disponible pour accompagner l'enfant. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'enfant, il doit avoir un permis de visite et la personne qui accompagne l'enfant doit avoir un permis de visite également. Ce qui fait que l'éducateur, il peut pas être remplacé par un autre éducateur, par exemple, pour accompagner un enfant au parloir. Mais que du coup, s'il est en congé ou s'il est en arrêt maladie pour des mois ou pour un temps un peu long, il faut qu'il y ait un nouvel adulte qui fasse une demande de permis de visite ou sinon les visites s'arrêtent pendant ce laps de temps. Il y a aussi des associations, des fois, qui peuvent prendre le relais pour accompagner l'enfant au parloir. Mais là, ça dépend des prisons. Est-ce qu'il y a un conventionnement avec une association ou non? En tout cas, pour celles où il n'y a pas de dispositif avec une association qui est prévue, les visites s'arrêtent. Après la sortie de la mère, là aussi, la sortie... Oui, brutalement, la personne, elle sort de prison, mais c'est pas pour autant que reprendre sa place dans la famille, c'est forcément simple de reprendre sa place auprès de ses proches. Et ça arrive aussi également, souvent dans le cas des femmes incarcérées, qu'elles doivent se battre pour récupérer la garde de ses enfants une fois sorties, même si la mesure de placement, elle a été à la base décidée parce qu'il y a une incarcération et que du coup, il n'y a personne pour garder l'enfant à ce moment-là. Ce n'est pas pour autant que la mesure de placement s'enlève à chaque fois dès la sortie de la mère. Voilà. On se rapproche de la fin de l'émission. Avant de finir, je voulais aussi dire un mot sur les femmes qui sont passées par la prison et qui auraient souhaité devenir mère, mais pour qui c'était plus possible... étant donné l'âge où elles ont été incarcérées et la durée de leur détention. Et du coup, je vais lire un témoignage d'une détenue de 32 ans. Je voudrais tout simplement dire que le fait d'être en prison va sûrement m'empêcher d'avoir des enfants, car je risque une longue peine et le sexe est interdit au parloir. Le fait de ne jamais voir d'enfant est une situation très antinaturelle. Cela fait 3 ans que je n'ai vu aucun enfant. La non-relation avec des enfants est aussi un manque en prison, même si on n'a pas soi-même d'enfants.
Ouais, juste pour dire que c'est... Enfin, je pense qu'elle voulait dire que c'est antinaturel personnellement et que voilà, on ne pense pas que ce soit pas naturel qu'une femme ait pas d'enfants. Ouais. Enfin, voilà.
Non, je ne pense pas que c'est ça ce qu'elle voulait dire. Ce qu'elle voulait dire, c'était que c'était pas... que c'était quelque chose de très bizarre de ne pas être en contact avec des enfants du tout et d'être que quand tu passes des années incarcéré et si t'as pas d'enfants qui viennent te visiter au parloir
t'en vois pas
tu vois zéro enfant et t'es en contact avec zéro enfant parfois pendant des années tout au long de ton incarcération
Et aussi que la sexualité des femmes est plus surveillée et brimée en prison ou parloir.
Et de toute façon, la plupart des femmes qui accouchent en détention sont rentrées en détention en étant enceintes. Et c'est assez peu courant de tomber enceinte en étant en détention. Et enfin, il y a des choses dont on n'a pas vraiment parlé aujourd'hui en détail, mais par exemple, l'accès à la PMA aussi, dans les faits, est très compliqué. Voilà.
Et puis la sexualité au parloir est beaucoup plus surveillée dans les établissements pour femmes que dans les établissements pour hommes. Aussi pour éviter les grossesses. Parce que ça, c'est pas du tout le même truc pour la pénitentiaire qu'une femme qui vienne au parloir tombe enceinte, qu'une détenue tombe enceinte. Où là, la grossesse, elle va se... poursuivre dans la prison et où du coup ils sont moins permissifs comme ils peuvent l'être à certains moments du côté homme quoi.
Avant de se quitter, on voulait dire quelques mots sur les CRA, les centres de rétention administrative, à la fois aux États-Unis mais aussi en France. Déjà aux États-Unis, comme on le sait en ce moment, il y a un gros mouvement de construction de plein de CRA, de vagues d'arrestations de personnes étrangères qui n'ont pas les papiers, dans l'idée, dans un premier temps, de les enfermer dans des sortes de CRA et puis ensuite de les expulser. Parmi ces personnes-là arrêtées, il y a des femmes enceintes. Et parmi lesquelles on retrouve des nombreux cas de fausses couches, de problèmes de santé, de malnutrition, de soins inadéquats et aussi de violences médicales. Dans l'un des témoignages que j'ai lus à ce sujet, il disait notamment que dans ces CRA, les conditions de détention sont complètement pas adaptées au fait d'être enceinte, parce que la seule nourriture disponible et que les gens doivent acheter de manière assez chère, c'est que des frites et des burritos surgelés. Ce même article dit aussi que des mères expulsées au Honduras, une fois qu'elles sont arrivées là-bas, étaient dans un tel état de dénutrition après leur détention qu'elles avaient arrêté de produire du lait. Donc on a vraiment des conditions de détention qui sont dures pour tout le monde, qui relèvent de la torture, de maltraitement, mais qui prennent qui ont des conséquences d'autant plus graves quand les personnes sont enceintes. Ça dénote aussi d'une énorme hypocrisie des fachos conservateurs américains qui, d'une part, attaquent le droit à l'avortement d'un côté veulent absolument conserver le taux de nativité, de natalité, que les femmes aient des enfants, etc. Mais il faut que ce soit les bonnes femmes selon leurs critères, parce que quand c'est des femmes étrangères qui n'ont pas les papiers, à ce compte-là, leur grossesse n'a plus d'importance. Et si elles perdent leurs enfants, l'importance en est visiblement moindre. Et ce cas-là aux États-Unis nous fait aussi penser aux situations de mères qui ont des enfants et qui se retrouvent donc séparées de leurs enfants, qui parfois ont la citoyenneté américaine quand elles sont expulsées du territoire. En France, on a des cas similaires de fausses couches liées à des violences de l'expulsion, parce que quand on est en CRA et qu'on nous force à prendre un avion, il peut y avoir de nombreuses violences policières. De manière générale, les mauvais traitements, l'absence de soins de santé, quand on connaît les conditions d'incarcération dans les CRA. À ce titre, je vous invite à lire deux témoignages sur le site ABBA les CRA qui concernent des fausses couches au CRA du Ménil-Amelot pour deux femmes.
Voilà, et ouais, juste pour faire un dernier parallèle avec l'hypocrisie des conservateurs et l'obsession de la natalité, Macron qui parle du réarmement démographique, et récemment on a vu des incitations à la stérilisation à Mayotte. Donc voilà, il y a des maternités désirables et d'autres indésirables. Et bon, on va se quitter après cette émission dense, mais d'un sujet intéressant et dont je pense qu'on aimerait bien reparler plus tard. On va écouter Big Dreams de Emil and the Sniffers. Et voilà, force à toutes et tous les enfermés et peut-être à vendredi à la Flèche d'Or.
Salut !
Salut !
Salut !
You got them big dreams, you wanna get out of here. You're sick of being stuck in the apartment. You're strapped for cash and, well, you don't know where to start. It isn't easy with the price of living, but oh, I know it's coming round again. Another birthday and another year older, oh, I know it's coming round. Been a dull one.
a dam full of broken hearts. Can you be holding on any tighter? Just take a breath and get out of this place. I know you can, just get yourself together. Oh, I know it's coming round again.